voix nue. Cette semaine, Élise Gruot rencontre Philippe Hersant. Ce soir, naissance d'une œuvre. Philippe Hersant, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir chez vous pour ce troisième entretien. Pour évoquer votre œuvre de compositeur, votre parcours de créateur en musique et les difficultés aussi qu'il a comporté. Hier, nous avons évoqué combien il fut difficile pendant toute une première période de votre âge adulte de devenir réellement compositeur, d'écrire et de faire face au vertige de la page blanche. Et comment vous vous êtes lancé pendant ces années dans les émissions de radio pour France Musique en tant que producteur à la redécouverte de beaucoup d'œuvres musicales. À quel moment s'est fait le retour à l'écriture musicale ?
Alors, la très grande chance que j'ai eue, c'était d'être nommé à la Villa Médicis.
C'était en quelle année ?
C'était en 78, donc j'avais 30 ans. Et je n'avais pas écrit grand-chose, pratiquement rien même depuis 5-6 ans. Et bon, là aussi, j'ai eu un peu un coup d'audace. Je me dis, j'ai quand même essayé de me présenter à la Villa Médicis, en pensant que je n'avais aucune chance, parce que j'avais pas grand-chose à présenter. À ce moment-là, c'était déjà sur dossier, c'était pas les mises en loge comme du temps de Bussy-Ravel. On écrivait une œuvre enfermée pendant 3 semaines. Là, on présentait un dossier, des partitions, des enregistrements.
Donc vous aviez de nouveau le désir d'écrire quand même à ce moment-là.
Je crois que j'ai eu le sentiment que si je faisais pas ça tout de suite, si je me donnais pas les conditions d'écrire, parce qu'il fallait que je gagne ma vie, donc j'avais peu de temps pour écrire, c'était fichu pour la composition. Enfin, je me le disais peut-être pas de façon si claire, mais il y a eu un pressentiment comme ça qu'il fallait agir. Et donc, je me suis présenté, j'étais reçu donc à la Villa Médicis, grâce à la bienveillance d'Henri Dutilleux et Gilbert Ami, qui étaient les deux membres du jury. Je suis arrivé à Rome le lendemain de la mort de Jean-Paul Ier, je me souviens. Et là, j'avais 3 mois pour écrire une œuvre. Alors, la chance que j'ai eue, c'était à la fois d'avoir une commande de Radio France pour l'Orchestre Philharmonique. C'est Charles Chêne qui, je pense, à force de me voir dans les couloirs, il m'aimait bien. Bon, il me dit, vous voudriez pas écrire une œuvre pour le Philharmonique? Évidemment, je lui ai dit oui, bien sûr. Et j'avais du temps pour l'écrire, puisqu'à la Villa Médicis, on est libre absolument de son temps. Donc je suis arrivé à Rome à l'automne 78, et pendant 3 mois, pour la première fois, j'ai vraiment travaillé à une œuvre. Je l'ai écrite assez rapidement, une œuvre d'orchestre en 2-3 mois, c'est assez rapide, mais en ne faisant que ça. Et c'est la première fois que je portais vraiment une œuvre en moi. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais fait ça. J'écrivais tout à fait en dilettante, en fait.
Et qu'est-ce que c'était, avoir une œuvre en soi? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que j'y pensais tout le temps. Ça veut dire que c'est obsessionnel, que vous avez beau aller dîner. Évidemment, quand vous êtes avec des amis, vous pensez à autre chose, mais régulièrement, ça revient à l'esprit, l'œuvre sur laquelle vous êtes, quelle transition je vais faire pour passer à tel passage, comment je vais terminer, tous les problèmes qui se posent quand on fabrique une œuvre, et c'est pas toujours facile. Voilà, ça m'obsédait, j'étais vraiment complètement dedans. Et c'est la première fois, quand je l'ai entendue, elle a été créée au mois de mars, je crois, 79, c'est la première fois que je me reconnaissais dans une œuvre. J'ai eu la sensation, qui est quand même assez bizarre, de dire, c'est moi qui l'ai écrite. Je l'ai portée, c'est ma pièce, elle a ses défauts, elle a tout ce qu'on veut, mais je me reconnais dedans. Les autres pièces que j'avais écrites avant, c'était tout théorique, puis c'était pas assez travaillé. Il y a une gestation qui est absolument indispensable pour que vous puissiez vous reconnaître dans votre production. Ça m'a fait beaucoup de bien, finalement, de me retrouver tout seul à Rome. Ce que beaucoup de gens ont reproché à la Villa Médicis, c'était justement l'isolement, d'être dans une ville qui n'est pas une capitale culturelle, de premier plan, il faut bien le dire, notamment pas pour la musique. Il n'y a pas beaucoup de concerts de musique contemporaine, mais je m'en fichais complètement, en fait. Ce que j'avais besoin, c'était de travailler, tout simplement. Donc c'était plutôt monastique. Voilà, je me suis mis devant ma table, devant mon piano, et j'ai commencé à écrire cette œuvre, alors encore très influencée par des tas de choses, des tas d'œuvres musicales précédentes de Xenakis. Mais il y avait notamment dans le premier accord, que je qui est un accord tonal, en fait, que je considère presque comme une provocation maintenant, et qui a dû l'être un peu. Alors, c'est un accord en trémolo. Gilbert Ami, à un moment, quand il a dirigé la pièce, m'a dit que ça faisait un peu lac des cygnes, ce qui ne devait pas être un compliment dans sa bouche. Mais c'est vrai qu'il y avait comme si je renouais avec un style orchestral, post-romantique, enfin quelque chose qui avait été complètement... sur lequel j'avais craché moi-même pendant très longtemps.
Banni.
Qui avait été complètement banni, on ne fait plus ça, ça s'est fait... Et là, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, je vais commencer par... Vous voulez que je le joue, cet accord ?
Ah bah oui, oui, bien sûr. Alors cet accord ?
C'est un accord tout simple, c'est un accord en fa mineur. Et avec ces trémolos comme ça, c'est vrai que ça pourrait être le début d'une œuvre de Tchaïkovski, d'une œuvre du répertoire romantique, ou pas romantique d'ailleurs, mais le trémolo donne un côté un peu romantique.
Il y avait une forme de provocation ?
Je pense pas que je l'ai voulu comme ça à l'époque. Mais je l'ai fait, ce qui était curieusement une façon de transgresser, alors que pendant longtemps c'était le contraire. Si on voulait choquer, on faisait des accords très dissonants. Mais il y a eu un renversement des valeurs qui faisait que finalement écrire un accord en fa mineur en 1978 était presque plus provoquant que d'écrire un accord horriblement dissonant. La dissonance était la norme et la consonance était à éviter. J'étais poussé, mu par ça, en tout cas.
Cette œuvre de la réaffirmation à Rome, est-ce que c'est Stances ?
Oui, c'est Stances.
C'est ça.
Oui, c'est donc une œuvre d'orchestre pas très longue, il fait un petit quart d'heure, dans laquelle il y a pas mal d'influences xénakiciennes. Après coup, c'est une œuvre qui n'est pas très... comment dire, pas très cohérente en soi, parce qu'elle elle commence avec cet accord de fa mineur, et puis après il y a des influences encore très très nettes de la musique de Xenakis. Mais j'ai écrit une autre œuvre qui est vraiment une œuvre de transition, alors qui elle fait un peu le contraire, c'est-à-dire qu'elle commence de façon très musique contemporaine, et que c'est une œuvre pour piano qui s'appelle Mouvement, qui au début ressemble beaucoup à, est très inspirée par une œuvre de Stockhausen. Où on joue avec la paume des mains, ce qu'on appelle des clusters. Et c'est extrêmement avant-gardiste, disons, comme écriture. Et puis, plus ça va, plus ça s'oriente vers toujours ce fa mineur, qui doit être une tonalité qui me plaisait bien à l'époque. Et on arrive progressivement vers un monde tonal, comme oublié, qui était enfoui derrière toutes ces avalanches de notes et de dissonances. Même chose, c'est maintenant que je vois rétrospectivement ce qu'il y avait dans cette pièce, qui est vraiment une pièce de transition, qui, comme si je quittais cet univers contraint pour moi, qui était celui de l'avant-gardisme et du refus absolu de la tonalité, pour finalement y retourner, parce que je ne peux pas faire autrement.
Vous dites, dans ces musiques que je compose, je retrouve quelques minutes d'authentique musique. Pour la première fois,
Je retrouve ce que j'ai envie d'écrire, je retrouve ce qui me touche, je retrouve ce qui... Donc je me suis laissé porter par ce que j'avais envie d'entendre, ce que j'avais envie de... ce qui pouvait m'émouvoir, en espérant que ça puisse émouvoir les autres.
Et ça a dû être assez jubilatoire pour vous de trouver tout à coup cette liberté en vous ?
J'étais très heureux avec cette pièce Stances. Il y a même un sentiment que je ne retrouverai plus jamais, parce que c'était le sentiment d'une sorte de découverte.
De première fois.
Oui, bah oui, ça, on ne retrouve pas ça. J'ai essayé de refaire cette pièce, alors elle est. Après, pour éliminer des maladresses, elle est mieux fichue, j'ai gommé les maladresses, effectivement, mais j'ai perdu quelque chose de les moments où il y avait cette espèce de fraîcheur, de la découverte. C'est Truffaut qui disait que les adolescents sont toujours très émouvants parce que ce qu'ils font, ils le font pour la première fois. Et là, j'étais plus un adolescent, j'avais 30 ans, mais c'était un peu le même... En musique, j'étais un adolescent, hein, on peut dire. J'ai tardé à être adulte.
L'adolescence peut durer.
Il y a des restes encore, je crois, d'ailleurs, en ce qui me concerne.
Comme quoi ?
Comme cet appartement. Enfin, c'est... Je n'ai pas l'impression d'être installé alors que je suis là depuis 35 ans, mais je trouve que ça fait presque plus chambre d'étudiant, enfin appartement d'étudiant que...
Avec une grande table, votre piano électrique,
voilà,
vos livres, vos disques.
Les livres sont à côté, mais pas de meubles. Ça n'a pas changé depuis 35 ans. Enfin, si,
C'est votre mansarde sous les toits de Paris, améliorée.
C'est une mansarde, oui, c'est ce que c'était au départ. C'était un grenier, oui.
Et vous êtes bien ici pour écrire?
Très bien. Je peux écrire que chez moi, en fait. Sauf si vraiment je suis pris par le temps et que je suis obligé d'emporter mon travail à l'hôtel ou si j'ai mais j'aime pas ça. J'aime vraiment. J'ai besoin d'être chez moi, d'avoir mon piano, mes traités d'orchestration, mon univers.
Et lorsque cette pièce pour orchestre philharmonique a été jouée à la Maison de la Radio, est-ce que vous avez rencontré un certain succès? Est-ce que c'était le début d'un public?
Bon, je pense que c'est sûrement la première pièce sur laquelle j'ai eu des échos vraiment favorables et de gens assez différents. Il n'y avait pas énormément, c'était une semaine de grève à Radio France. C'est le seul concert de la semaine qui a été maintenu. J'ai vraiment eu de la chance. Et c'était dans le petit auditorium qui n'existe plus maintenant, qui était à la porte B. Ça doit être le Charles Trenet maintenant.
C'est
105.
Et là, vos amis aussi reconnaissent qu'il y a une musique
de
vous.
Alors, et puis d'autres, non. Au contraire, me trouvaient que je commençais à aller dans une voie...
Avec ces accords consonants, vous avez dû vous faire des ennemis.
Là, très nettement, il y en a un qui m'a dit, il y a vraiment les anciens et les modernes. Bon, ça... Oui, la querelle des anciens et des modernes n'est pas terminée, il m'a dit.
Bon. Et à partir de là, alors ce retour d'Italie, vous revenez à Paris alors.
Ah, je reviens à Paris, je retourne à la radio. Ouais. Je passe une année un peu pénible. J'ai mis un peu de temps encore avant de recommencer à composer. Disons, il y a des jalons. Un des jalons principaux, je pense, c'est en 86 quand j'ai écrit une œuvre qui s'appelle Missa Brevis. Missa Brevis, donc j'étais rentré depuis 6 ans quand même, qui est la première dans laquelle je peux dire, il y a les éléments de mon style actuel, les références au passé. Enfin, c'est la première, plus que stance quand même. Je pourrais la revendiquer comme ça, comme mon opus 1. Entre les deux, le retour à la villa et cette œuvre-là, j'ai écrit quelques pièces, mais disons que c'était quand même une remise en selle assez, assez lente, assez...
Mais quand même, vous abandonnez vos vieux démons et vous affirmez dans votre œuvre.
Oui, absolument.
Et que faites-vous de tout ce bagage emmagasiné à France Musique à ce moment-là?
Ça s'est retrouvé dans mes œuvres ultérieures, en fait. Puisque c'est vrai que maintenant, mes œuvres sont très souvent en référence au passé, à des musiques qui ont pu m'émouvoir dans le passé. Et en fait, la référence baroque, elle se retrouve dans pas mal de mes pièces, les musiques du Moyen-Âge aussi, enfin c'est de Monteverdi dans mes Vêpres, du dernier Liszt dans certaines de mes pièces de piano, de Mahler dans presque toutes mes œuvres symphoniques. Et c'est tout à fait revendiqué maintenant, Quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit qu'un jour je revendiquerais une influence post-romantique, j'aurais poussé des cris. j'ai changé complètement de vision par rapport à ça.
Et toute cette culture que vous aviez emmagasinée, vous pouviez avoir redouté un temps qu'elle vous étouffe dans votre expression, finalement.
C'est le danger, c'est sûr. C'est le danger qu'on finisse par... Enfin, si on a des bagages trop encombrants, on finit par ne plus bouger ou être enfoui peu à peu sous les références. Mais non, il faut arriver évidemment à ce que ça soit une étincelle et non pas un frein. Mais je crois que ça a existé à toutes les époques. Enfin, tous les artistes se sont nourris des artistes précédents. La Renaissance italienne de l'art antique. Enfin, il n'y a que l'avant-garde finalement qui a décidé de faire table rase du passé. Alors, faut trouver un juste équilibre, évidemment. La référence excessive n'est pas intéressante. Le pastiche m'intéresse pas du tout. Mais voilà, je ne peux pas écrire d'œuvre sans en oubliant complètement ces bagages que j'ai accumulés au cours des ans.
Et s'inscrire dans une tradition que
et
vous
même,
avez bâtie.
En fait, j'aime même bien ça, m'inscrire dans une tradition où j'ai écrit une œuvre pour Notre-Dame de Paris, pour les 850 ans de Notre-Dame. J'ai essayé finalement que le passage de ces 850 ans se retrouve dans mon œuvre, ce qui est évidemment quelque chose de tout à fait anti-moderniste.
Il y a très souvent une réflexion qui se perçoit sur le temps, sur le passage du temps, sur la mémoire dans vos œuvres.
En fait, j'aime beaucoup la mémoire, j'aime beaucoup me souvenir. Je suis pas nostalgique, encore qu'on attaque beaucoup la nostalgie, mais c'est un beau sentiment la nostalgie. Je ne sais pas pourquoi dès qu'un critique musical parle de nostalgie, c'est toujours y a toujours l'idée
Que c'est péjoratif.
Je trouve que lorsque le passé fait irruption dans le présent, c'est toujours quelque chose d'extrêmement émouvant. Enfin, c'est un peu le principe de la Madeleine de Proust. Mais ce que j'adore dans ces villes anciennes comme sont Rome et Naples. C'est que ce sont des villes absolument modernes, avec tout le fracas, les embouteillages, les bols. Et ce sont des villes dans lesquelles, au détour d'une rue, vous retrouvez quelquefois deux millénaires en arrière. C'est tous ces vestiges, ce passage du temps qui est là. Comment il disait Chateaubriand, c'est l'admirable tremblement du temps. Mais j'adore ressentir ça.
L'épaisseur du temps, à ciel ouvert.
En fait, quand j'écris de la musique, j'ai envie de faire sentir ça. Donc j'ai besoin du passé, mais j'ai aussi besoin de l'époque actuelle. C'est pour ça que le pastiche ne m'intéresse pas. J'ai aucune envie d'écrire une sonate selon les règles apprises dans les conservatoires. Ça ne m'intéresse pas du tout. Et c'était une sorte d'aller-retour entre le passé et le présent que je trouve toujours très émouvant. C'est pour ça que j'adore Fellini, par exemple, parce qu'il y a ça chez lui. Roma, c'est ça. C'est un perpétuel aller-retour entre la Rome moderne, la Rome antique, les bordels d'avant-guerre, tout ça se mélangeant dans...
La Rome fantasmatique aussi.
La Rome fantasmatique, la Rome rêvée, la Rome... et tout ça sans esprit, avec une espèce de liberté comme ça qui est... Qui me touche beaucoup. Enfin, ce jeu avec le temps me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de mes bagages, pas uniquement de l'ère du temps présent.
Vous avez, Philippe Hersant, composé justement pour le cinéma aussi, notamment avec Nicolas Philibert pour le film Être et avoir, pour Romain Goupil. Comment se sont passées ces expériences? Est-ce que vous avez aimé partir d'une image pour écrire la musique?
Moi, j'aurais beaucoup aimé écrire des musiques de films. Mais c'est un peu plus compliqué maintenant que ça ne l'était avant-guerre, enfin, du Tilleux, Honegger. On crée beaucoup de musiques de films. Maintenant, c'est vrai que c'est un marché un peu qui se retrouve dans les quelques mains. Alors, Philibert, je l'ai rencontré grâce à Jourdeuil et Perret sur une pièce de théâtre dans laquelle il y avait une petite séquence filmée. Et puis, quelques mois après, il m'a demandé d'écrire la musique de la ville Louvre, un documentaire donc sur l'ouverture du Grand Louvre. Et puis j'ai fait 5 musiques de films pour lui, 5 ou 6, je ne sais plus. Et toujours un grand plaisir. C'est quelqu'un qui attache une grande importance au son, un peu dans l'esprit de Jacques Tati, qui est peut-être son dieu, je crois. Enfin, et il est très musicien aussi. Il a fait du violon quand il était jeune. Et on a toujours été d'accord sur la musique. On n'avait pas besoin de se concerter sur quand il en faut et surtout quand il n'en faut pas, parce que je trouve qu'il y en a beaucoup trop dans les films. Et voilà, ça s'est toujours extrêmement bien passé. Alors dans certains films, il y a très peu de musique. Être et avoir, par exemple, il y a 5 minutes de musique en tout, générique de fin compris. Donc c'est vraiment très minimaliste. Mais à mon avis, ça suffit, c'est juste des ponctuations musicales. Et on se rejoignait vraiment souvent. Et alors j'ai une expérience avec Romain Goupil qui était à l'inverse de ce qui se passe habituellement. Au lieu d'écrire sur des images déjà filmées, j'ai écrit la musique avant que la première scène soit tournée. Et en fait, il a construit toute une partie de son film... avec cette musique déjà enregistrée, C'était pour Lettre pour elle.
Lettre pour elle, oui.
Puis j'ai écrit, enfin, il y a un autre film de Goupil où il y a ma musique, mais c'est une musique préexistante. Elle a été, c'est lui qui l'a choisi et qui l'a. Sinon, des musiques originales, dont j'en ai fait assez peu finalement. Mais malheureusement, maintenant, il faut se spécialiser. C'est ça qui est devenu dommage, c'est que si vous écrivez beaucoup de musique de film, on vous catalogue musique de film, vous pouvez plus faire que ça.
Cloisonnements aussi.
Ben oui, c'est un nouveau cloisonnement, parce que Prokofiev a écrit deux des plus belles musiques de film qui soient, Alexandre Nevsky et Ivan le Terrible. Il n'a jamais été considéré comme un musicien de film. Shostakovich en a écrit pas mal aussi. Mais maintenant, c'est mal considéré. Quand un musicien qui fait de la musique de film essaye de faire une pièce de concert, on lui renvoie toujours à la figure qu'il est un musicien de musique de film, ce qui est...
C'est vraiment dommage.
Ben, comme si c'était un genre mineur dans lequel il ferait bien de se cantonner. Donc.
Votre œuvre Songlines est inspirée d'un roman de Bruce Chatwin qui évoque les mythes aborigènes de la création du monde.
C'est pas vraiment un roman, d'ailleurs, c'est plutôt un récit de voyage, en fait. Et les découvertes qu'il a faites grâce à deux, trois personnes qu'il a rencontrées sur place.
Et dans ce récit de Bruce Chatwin, les songlines, ce sont des itinéraires chantés,
oui. Hein,
ou des pistes de rêve.
Ben, je trouvais l'idée extraordinaire, mais c'est effroyablement compliqué, la mythologie aborigène. Donc, Bruce Chatwin, d'ailleurs, s'est fait... beaucoup d'aborigènes ont dit que son livre n'avait aucune valeur, parce que c'est tellement complexe, et puis c'est pas unitaire, c'est-à-dire qu'une tribu du Nord-Est ne va pas dire la même chose que ceux du Sud-Ouest. Bon, chaque ethnie a ses propres mythes, mais l'idée générale, quand même, qui me plaisait beaucoup, était que j'ai lu dans ce livre, c'est que il raconte que l'univers a été créé par des grands ancêtres qui ont créé le monde en le chantant. C'est-à-dire que c'est en nommant et en chantant le nom d'un arbre, d'une montagne, d'une mare, tout ça est venu au monde. Et je trouve que c'est une très jolie idée.
Cet univers, cette culture aborigène où il y a une perméabilité entre les réalités, entre différents niveaux de réalité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous touche? Un rapport à la pensée magique
Oui, bien sûr. Mais cette œuvre, la Songlines, n'a pas du tout la prétention d'être proche de l'univers des aborigènes, que je, très modestement, je ne connais qu'à travers ce livre et quelques expositions que j'ai pu voir, notamment au Quai Branly. Mais ça reste très, très, très superficiel. C'est plutôt que ça a été une étincelle, en fait. Ça m'a donné envie d'écrire non seulement une œuvre, mais il y a 4-5 œuvres qui sont liées à... Toujours autour du même motif musical, d'ailleurs. Voilà, mais ça n'a aucune valeur ethnomusicologique, en tout cas.
Oui.
Je pense...
Mais c'est cette idée des itinéraires chantés qui vous a porté
Je considère d'ailleurs très souvent mes œuvres comme un peu comme des voyages. J'aime bien avoir l'idée que c'est un voyage. Pas un récit, je n'ai pas envie de faire de musique descriptive ou qui raconte une... Mais l'idée de voyage, oui, comme des micro-voyages imaginaires dans des contrées que je ne connais pas. Je n'ai jamais mis les pieds en Australie. Mais la lecture de ce livre, les peintures aborigènes, c'était des étincelles qui ont suscité, je vous dis, 4-5 œuvres. C'est ma vision tout à fait subjective, personnelle, revendiquée comme telle, que je mets en avant. J'écris une autre pièce qui s'appelle 5 miniatures pour flûte où j'essaye avec la flûte traditionnelle, la flûte traversière occidentale, d'imiter une flûte berbère, une flûte chinoise, dans 5 petits morceaux. Là aussi, c'est complètement subjectif. C'est ma vision de. Alors, il y a un petit voyage au Sahara, il y a un petit voyage en Chine, mais avec. C'est fantasmé. Ce sont des pays où je n'ai jamais été.
Et c'est pousser l'instrument aussi dans des contrées
que
vous ne connaissez pas.
Oui, aussi. Mais encore une fois, la valeur ethnomusicologique est nulle. Alors que Florence, qui a écrit beaucoup d'œuvres liées à l'Afrique, s'appuie sur des réels motifs. Il était d'ailleurs aussi ethnomusicologue. Et ces œuvres ont une, comment dire, sont solidement ancrées dans une tradition africaine. Là, pour Songline, c'est pas du tout mon cas. J'aimerais bien d'ailleurs que l'œuvre soit jouée en Australie, que je sois là, que j'ai un peu le retour de ce que pourraient penser les habitants qui connaissent bien ces mythes aborigènes.
Ça doit pouvoir s'organiser.
J'ai écrit une pièce qui s'appelle Hopi, qui est un hommage aux Indiens Hopi, donc de l'Arizona. Et à la suite j'avais entendu un chant indien, mais il y a très longtemps, j'ai perdu le disque. Je sais pas du tout si la référence à ce chant est exacte ou complètement imaginée ou déformée par la mémoire. Mais un bassoniste d'Arizona m'a écrit, professeur d'université de l'université d'Arizona, il m'a dit qu'il avait joué cette pièce dans une réserve Hopi et qu'il avait demandé aussi aux Indiens d'ajouter des percussions. Il m'a envoyé l'enregistrement, c'était bon, je trouvais ça vraiment très bien.
Et les Indiens Hopi, comment ont-ils réagi?
D'après ce qu'il m'a dit, très bien. Et j'ai dit, vous auriez dû m'inviter. Mais non, c'est vrai que j'aurais adoré écouter cette pièce dans une réserve Hopi. Mais non, ça ne les a pas choqués, mais je ne sais pas s'ils ont reconnu. Je ne pense pas, il n'y a pas de raison qu'ils aient... Ou alors un vague parfum au début, mais... Mais c'est pas ce qui m'intéresse en fait, c'est le voyage imaginaire, en l'occurrence en musique, m'intéresse plus que la vérité ethno-musicologique, que je n'ai pas et que je n'aurai jamais.
Et vous, Philippe Hersant, vous êtes un citadin et vous évoquez ces voyages imaginaires. Est-ce que vous êtes vous-même un voyageur du monde ?
J'ai voyagé pas mal, j'étais au Mexique, j'étais en Afghanistan, la dernière année où on pouvait y aller, avant l'invasion soviétique, et depuis... C'est pas un pays où on peut aller facilement. C'est un souvenir extraordinaire, hein, vraiment. Le Mexique aussi. Après, j'ai nettement moins voyagé, sauf en Italie, où je vais au moins 4 fois par an. Mais là, c'est les attaches. Je connais l'Italie et l'Espagne très bien. Mais j'ai moins fait de grands voyages, par faute de temps aussi. Enfin, un peu aux États-Unis. Mais
l'Italie, c'est quand même toujours le retour aux sources.
L'Italie, oui, quand je me dis qu'il faut que je prenne une petite pause là, parce que accumuler 3 œuvres de suite, j'en peux plus, donc 3 jours à Venise, ou 3 jours à Rome, ou 3 jours à Naples, c'est là que je retourne le plus volontiers.
Philippe Hersant, merci beaucoup.
Merci.
À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élise Gruau avec Philippe Hersant. À voix nue, réalisation Ghislaine David, prise de son Yann Frécy, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.